y a deux types de motifs pour lesquels un gouvernement peut dissoudre un mouvement politique. Soit ce sont des idées, par exemple l'incitation à la haine, à la discrimination, soit ce sont des actes, par exemple une formation paramilitaire, le lien avec une entreprise terroriste. Il n'y a pas d'acte de violence hein, à reprocher spécialement à génération identitaire, donc on va plus être dans le domaine des idées en bonne logique.
Mais alors, les idées, quelles sont les idées qui pourraient amener le gouvernement à justifier cette dissolution?
Alors ça range les choses beaucoup plus délicates quand on rentre dans le domaine idéologique, puisque ce qui serait le plus proche en bonne logique pour dissoudre génération identitaire, ça serait l'incitation à la haine et l'incitation à la discrimination. Mais donc le gouvernement va devoir prouver hein, que ce groupement correspond à ces délits et celui-ci va pouvoir se défendre. Il faut bien comprendre qu'il y a des recours qui sont faits devant le Conseil d'État qui diverses fois a annulé des dissolutions en considérant de bon droit que le gouvernement n'avait pas fait la démonstration.
C'est d'autant plus compliqué comme démarche qu'a priori, contester l'immigration, évidemment, c'est quelque chose que l'on peut reprocher à un mouvement, mais ça n'est pas quelque chose d'illégal.
Bien évidemment, Génération Identitaire et tous ses soutiens vont rentrer sur le thème. C'est un mouvement qui s'oppose à l'immigration, c'est un mouvement qui s'oppose à l'islamisme, il s'oppose en fait surtout à l'islam de manière générale, mais on reste dans le débat d'idées et donc c'est de la police politique, etc. On va entendre tout cet argument en défense et c'est vrai que c'est une vraie question, d'autant plus que la question c'est de savoir comment on intègre les thématiques radicales à l'espace public démocratique, parce que les gens ne disparaissent pas hein, quand on dissout une association, et que ces thèmes-là, ils dépassent très largement génération identitaire. L'opposition à la société multiethnique, l'opposition à l'islam sont fortes en France. Donc comment c'est intégré à l'espace public ?
Génération Identitaire a été relaxée à deux reprises ces derniers mois pour l'opération de propagande anti-migrants dans les Alpes en 2018 et pour l'occupation du chantier de la mosquée de Poitiers en 2012. Ce sont ces deux succès judiciaires qui ont amené le mouvement à lancer cette nouvelle opération dans les Pyrénées ?
Alors, il faut bien comprendre que pour Génération Identitaire, il y a un modèle proclamé qui est Greenpeace. L'idée, c'est que Greenpeace, vous avez 10 militants écologistes, ils montent sur une centrale nucléaire avec une banderole, ça occupe la télévision toute la journée, et puis à la fin, les Verts montent, gagnent des voix, influencent la politique énergétique de la France. Et les identitaires sont dit sur des questions comme la migration ou l'islam, on peut faire la même chose, on peut réussir des opérations spectaculaires qui nous permettent de rompre avec l'extrême droite radicale classique, on n'est plus dans le coup de poing raciste dont personne ne veut, que personne ne va soutenir dans la société, on est dans quelque chose qui pose un débat et qui oriente l'agenda politique. Et c'est ça qu'ils continuent à faire et qu'ils ont fait à une autre échelle effectivement ces derniers temps, en particulier avec l'opération dans les Alpes.
C'est de l'agit-prop en fait.
C'est exactement ça, c'est de la pure agit-prop. Il y a eu un moment où ils ont eu la tentation de se présenter aux élections. Ils sont rapidement revenus dessus avec un discours qu'avait fait Philippe Ardon, qui est un peu la figure tutélaire des identitaires, qui maintenant a rejoint la direction du Rassemblement national, et où Ardon avait posé assez clairement et objectivement l'échec. En fait, ils n'avaient pas su le faire. Résultat, ensuite, à partir de 2014, on va les retrouver sur les listes du Rassemblement national. Il y en a une cinquantaine de militants sur la liste municipale en 2014. Et puis, souvent, ça va devenir en fait une espèce d'école de cadre du Rassemblement national. On va voir des militants qui vont passer, devenir des collaborateurs ou des élus, etc., de ce parti. Il y a donc une organisation qui se fait et en même temps, Génération Identitaire porte des thèmes dans l'espace public que ne pourrait pas porter le Rassemblement national, du moins avec cette crudité-là.
Il y a donc une porosité, mais est-ce que l'on peut parler de lien quasi organique entre le Rassemblement national et Génération Identitaire ?
Non, c'est un partage des tâches intelligent. Les groupuscules radicaux, leur problème depuis les années 60, c'est que les gens qui sont un peu brillants, les jeunes hommes un peu brillants dedans, ensuite en partent. Parce qu'on peut pas faire une carrière dans un groupuscule radical. Donc si vous êtes un peu brillant, que vous avez envie d'avoir une carrière, vous êtes bloqué. Donc Génération Identitaire, ça a été la rupture avec la référence fasciste, avec l'exaltation de la violence, avec le fait que de jouer le camp des réprouvés. Génération Identitaire, les gens montrent leur visage sous leur vrai nom, etc. Ils assument ce qu'ils sont en considérant qu'en fait, ce sont eux, les gentils, qui protègent les libertés de la civilisation européenne dans leur discours. Alors qu'avant, dans les années 80, 90, 70, ces groupuscules aimaient bien jouer, entre guillemets, les méchants. Donc, si vous voulez, il y a eu cette mutation de l'extrême droite radicale et résultat, ces jeunes cadres qu'ils forment, le Rassemblement national, lui, a toujours manqué de cadres. Donc, ce n'est pas une question de relation organique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des jeunes hommes brillants et il y a des gens qui en manquent. Donc, c'est assez logique, ils puisent l'un chez l'autre des débouchés sociaux pour les uns et des talents pour les autres.
Quel est le poids de ce mouvement ? Est-ce que l'on parle de quelques dizaines de militants ou davantage ?
Non, on est sur quelques centaines. Quand ils avaient fait un référendum interne ouvert aux sympathisants pour savoir s'ils avaient un candidat à la présidentielle, ils avaient eu quelque chose comme 2300 votes. Donc, ce n'est pas 2300 adhérents hein, dont on parle, mais c'est un mouvement conséquent, important dans l'extrême droite. C'est un mouvement qui est parvenu à s'internationaliser. Il y a aujourd'hui une dizaine de branches en Europe de génération identitaire. Il y a également d'autres mouvements en Europe qui ne lui sont pas liés organiquement, mais qui l'imitent. Bref, c'est devenu tout de même une vraie boussole dans l'extrême droite européenne, génération identitaire.
Nicolas Lebourg, la double relaxe dont a bénéficié Génération Identitaire montre qu'il va être compliqué justement de trouver des arguments juridiques pour aller jusqu'à la dissolution.
Ah, ça va être tout à fait compliqué puisque on avait beaucoup parlé qu'ils soient attaqués en justice sur le fait de s'être substitué aux forces de l'ordre dans les Alpes, puis là la semaine dernière dans les Pyrénées. Mais la cour d'appel de Grenoble les a relaxés à la mi-décembre dernier. Donc pour la justice, les choses se sont bien passées. Donc là, on parle plutôt d'une provocation à la haine que de ce problème de substitution aux forces de l'ordre. Et la provocation à la haine, c'est plus compliqué parce que le gouvernement, au niveau juridique, si vous voulez, peut justifier cela par les propos aussi des membres d'un groupe. Hein. Donc si l'État vous dissout, il peut dire le président, le directeur, etc., a tenu tel et tel propos. Mais les tels et tels propos n'ont pas été condamnés par la justice aujourd'hui. Il n'y a pas une suite de condamnation judiciaire qui permettrait facilement à l'État de dire, vous voyez bien, ils ont été condamnés diverses fois pour incitation à la haine, on peut les dissoudre pour incitation à la haine. Au niveau juridique, là, on va être sur une situation beaucoup plus compliquée que celle-là.
Au-delà de l'aspect juridique, n'y a-t-il pas un risque politique à vouloir dissoudre Génération Identitaire, sachant que les questions d'immigration et d'identité préoccupent une partie significative de l'électorat?
Il y a un problème de sécurité publique et il y a un problème politique. C'est-à-dire que lorsqu'on dissout des associations, bien souvent, il y a des militants qui ne sont plus tenus par un cadre. Et là, on a affaire à des militants qui ont des pensées radicales, mais on leur dit on peut les exprimer politiquement. On peut même les exprimer politiquement jusqu'effectivement maintenant à des plateaux de télévision. On n'est plus condamné à la marge. Forcément, si on leur dit que l'action légale n'est plus permise et qu'ils ne peuvent plus s'exprimer, il y a ceux qui vont continuer à faire de la politique dans d'autres formations, mais il y en a d'autres qui partiront, qui auront la tentation de la radicalité violente. On le voit bien avec la dissolution d'Unité radicale en 2002. D'un côté, il y a ceux qui vont faire les identitaires, qui vont rompre au maximum avec la radicalité, qui vont essayer de s'adapter au système pour jouer la règle du jeu. Et il va y avoir plusieurs arrestations d'anciens militants d'Unité radicale qui, eux, préparaient des projets terroristes. Parce qu'ils n'étaient plus tenus par un cadre. Ils ont été arrêtés fort heureusement par le service de sécurité avant l'action. Donc, une dissolution, c'est toujours ambivalent dans ses effets.
Dernière question, Nicolas Lebourg. Le gouvernement a dissous le CCIF, le Comité contre l'islamophobie en France, ainsi que l'ONG islamiste Baraka City. Là, il veut donc dissoudre Génération Identitaire. Est-ce qu'il s'agit de montrer que l'on s'attaque à tous les mouvements extrémistes?
Alors, d'abord, il y a plusieurs possibilités. Au niveau de la politique politicienne, mais qui existe, bien évidemment, on peut dire que dissoudre Génération Identitaire, c'est un intérêt dans l'entre-deux-tours de la présidentielle, dire Marine Le Pen, Emmanuel Macron, c'est pas la même chose pour l'électorat de gauche. Et Emmanuel Macron aura bien besoin de l'électorat de gauche au second tour. Donc, on peut se dire qu'il y a cet aspect-là, j'en sais rien, évidemment. Néanmoins, il y a un côté en même temps qui est très clair. Et en même temps, dissolution, ça a déjà été fait. En 1973, par exemple, on dissout la Ligue communiste trotskiste, en même temps qu'Ordre Nouveau, qui est néo-fasciste, parce que résultat, bah, ça permet de faire avaler la dissolution à chacun des deux bords. Vous voyez, on tape un coup chez chacun. Là, vouloir dissoudre Génération Identitaire, ça rappelle un peu cette stratégie de 73 de faire du en même temps, on tape d'un côté de l'islam politique, on tape de l'autre côté sur les islamophobes. Est-ce que ça fait une stratégie de maintien de l'ordre public? Pas tellement. On le voit clairement sur un point. Toutes les préconisations de la commission d'enquête sur les groupuscules d'extrême droite, il y avait de très nombreuses préconisations qui, en fait, pouvaient aussi s'appliquer aux djihadistes, dont des préconisations de surveillance. Elles n'ont pas été intégrées au droit, elles n'ont pas fait l'objet de propositions de loi ensuite, et on ne les retrouve même pas dans le projet de loi séparatisme actuellement devant l'Assemblée nationale, alors que ces propositions auraient pu permettre justement au ministre de l'Intérieur d'avoir un dossier plus épais pour défendre la dissolution tant du CCF que de Baraka City que des identitaires.